marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Tiens, Drouet ne serait pas mort.
Ouais. Le Drouet de Varennes.
Drouet de Varennes, 1763-1824.
Citoyens, l'Assemblée de la Constituante est heureuse de recevoir aujourd'hui, 24 juin 1791, le citoyen Drouet, maître de poste à Sainte-Ménéole, la patrie reconnaissante à savoir à Varennes, empêché la fuite du roi reconnu malgré son déguisement par le citoyen Drouet.
Alors, dès le premier récit qu'il fait à Paris de son exploit de Varennes, Jean-Baptiste Drouet en a déjà touché les premières rémunérations. Couronne civique, épée civique, médaille, récompense en argent, etc., etc. Il veillera ensuite à ne jamais perdre le capital de sympathie populaire acquis cette année 1791. Il vient d'une famille qui n'était pas sans moyens. Il a fait des études au collège, s'est engagé chez les dragons du prince de Condé. Mais l'insolence dont il a fait preuve face au roi, contestant sa personne sacrée, incarne, pour Stendhal, l'énergie française telle qu'elle se réfugie, je cite l'écrivain, dans les basses classes de la société. En 1947, Roger Vaillant, l'écrivain alors communiste, lui consacre tout un livre sous le titre « L'homme du peuple ». Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon le rapproche d'Éric Drouet, bien connu. C'est pour lui un grand compliment. Quand les politiques opposants de métier ne parviennent plus à leur fin, il y aura toujours en France un Drouet pour déclencher l'événement. Pendant la Révolution française, il y a eu des acteurs d'une autre importance. Souvent, ils n'ont pas sauvé leur peau. Il y a eu aussi, comme Drouet, des protagonistes. Il lui fut attribué un rôle décisif en 1791, mais il a su tenir ensuite des rôles supplémentaires et il a réussi généralement à passer les obstacles. Sa carrière fut longue et aventureuse. Accrochez-vous bien, nous allons courir la poste.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Pierre Serna. Bonjour Pierre Serna.
Bonjour Jean Lebrun.
Dont
merci
la production
de m'accueillir.
Sur la Révolution française est aussi abondante que la carrière de Drouet fut longue. Vous êtes notamment intéressé encore récemment à un certain Antonel qui a été conventionnel comme Drouet, qui a survécu longtemps.
Oui, Antonel a été législateur.
Législateur, membre de la législative.
Il a survécu après les événements et par bien des points, il est proche de Drouet.
Oui, parce qu'il y a trois grandes assemblées qui se succèdent pendant la première Révolution française, la Constituante. C'est pendant la Constituante qu'a lieu l'événement de Varennes, la législative et la convention. Il ne faisait pas bon ensuite avoir été conventionnel et surtout régicide comme Drouet. Histoire de nous tenir en haleine, je vous propose d'écouter cette anecdote telle que racontée par la tribune de l'histoire de France Inter, naguère. C'est une des versions de la fin de Drouet. Nous sommes sous la Restauration, les régicides sont bannis et l'un d'eux est encore évoqué dans la presse par le lecteur d'un conte ultra, enfin très légitimiste. Ce lecteur s'appellerait Mergeste.
Tiens, Drouet ne serait pas mort.
Drouet ? Le Drouet de Varennes ? L'infâme Drouet ?
Cela me semble en effet être lui, monsieur le comte. Voici l'entrefilet de la Gazette de France.
Voyons.
En dépit de minutieuses recherches exécutées au début de la Restauration dans les départements de la Meuse, des Ardennes et de la Marne, le régicide était demeuré introuvable. On pensait qu'il était mort et qu'il avait été enterré subrepticement dans une cave ou dans un jardin. Or, Drouet vit toujours terré quelque part. Les recherches se poursuivent.
Mais j'espère qu'on le trouvera vite et qu'on le pendra.
Le pendre ?
Bien sûr ! L'auteur de tous nos maux, celui qui a empêché Louis XVI de rejoindre ses troupes fidèles et de mater la Révolution, celui-là ne mérite que la patente.
Il a obéi aux ordres de la municipalité de Sainte-Menou.
Parole, monsieur Mergès, vous le défendez ? Drouet ! Drouet !
Mais non, monsieur le comte, je ne me permets pas.
Vous défendez Drouet ? Vous, mon lecteur ?
Mais non, monsieur le comte, mais non, je
défendre celui qui a osé faire arrêter le roi !
Et quelques jours après, en 1824, donc.
Entrez.
C'est Madame Mergès, la femme du lecteur de Monsieur le Comte.
Elles entrent. Bonjour, Madame Mergès. Qu'y a-t-il pour votre service?
Monsieur le Comte, Monsieur Mergès est mort ce matin.
Oh! Oh, mon Dieu, madame. Croyez bien que
merci,
je suis désolé.
Monsieur, merci. Avant de mourir, il m'a prié de venir vous annoncer qu'il ne s'appelait pas Mergès, mais Drouet.
Drouet?
Oui. Jean-Baptiste Drouet. Celui qui a arrêté le roi à Varennes.
Oh! Oh!
Je suis votre servante, monsieur.
Oh!
Alors, il y a beaucoup d'autres versions hein, de la fin de Drouet qui est encore un peu obscure.
Oui, comme d'autres moments de sa vie, Drouet traîne avec lui plusieurs légendes. Certains disent qu'il a terminé pâtissier, certains disent qu'il a été jardinier, alors peut-être du même compte ultra-légitimiste.
Plutôt certains disent qu'il est confié en dévotion à la fin de sa vie.
Oui, ça se reste à voir dans une terre de mission qui est devenue la France et qu'il faut reconquérir. Les curés ont vite fait de convertir les anciens conventionnels qui, bien souvent, comme le héros de Victor Hugo, resteront fidèles à ce qu'ils ont été. J'ai même lu que pour se cacher, il s'était fait appeler Troué, comme un trou de mémoire.
Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 28 ans, 1791, Sainte-Menou, et ces 60 ans passés à Mâcon, il meurt en 1824. Mona Ozouf, dans la fuite de Varennes, dit « Oui, bon, il est maître de poste à Sainte-Menou. Quand il voit arriver deux berlines, il aurait dû demander les passeports des gens qui étaient dans cette berline. Et c'est peut-être pris d'inquiétude, quand il se dit c'est peut-être la famille du roi, qu'on lui reproche cette négligence, qu'il file très vite par des sentiers de traverse pour aller jusqu'à Varennes et arrêter les deux berlines.
Oui, alors, vous avez raison. En même temps, s'il est maître de poste, c'est sa mère qui a la charge de façon officielle. Quand il se penche sur la fenêtre, si l'on en croit les différents récits qui concordent, il aurait reconnu d'abord la reine, puis ensuite le roi avec le fameux la fameuse ressemblance du billet de 50 livres en assignat. En réalité, il a un doute immédiat, puisqu'il suit la berline, revient sur ses pas et prévient la municipalité. Alors c'est vrai qu'il ne demande pas de suite le passeport, mais il va le demander à un moment crucial. C'est lorsqu'il arrive à 23h, un peu plus de 23h à Varennes, et lorsque il l'oblige, en fait, la reine, qui dans un premier temps refuse de montrer le passeport, et lorsqu'il demande à voir les passeports. Et justement, il y a un moment clé dans ce moment-là, c'est que Drouet remarque que le passeport n'est signé que du roi. Et il fait immédiatement donc remarquer que ce passeport n'est pas valide, car il n'est pas signé par le président de l'Assemblée législative.
Donc preuve, il a des lettres, Drouet, il est informé.
Oui, et preuve surtout que cet homme sait que lors des temps de crise, le pouvoir législatif est le garant des institutions, parce qu'il contrôle aussi le pouvoir exécutif.
Mais dites-moi, il n'est quand même pas tout seul alors. Le maire de Sainte-Menou n'est pas là, le maire de Varennes n'est pas là, mais il y a le procureur de la commune de Varennes, et c'est quand même lui qui est à Varennes. Sauce, le procureur va prendre les choses en main. Pas Drouet ?
Oui, alors...
Dans un deuxième temps.
Oui, bien sûr. Dans un premier temps, c'est Drouet, avec son compère Guillaume, hein, qui lui aussi est un ancien dragon, qui vont organiser en fait le blocage du pont de l'Air en le barrant par deux charrettes remplies de meubles. Puis, il s'adresse au procureur syndic, Sauce, dont vous avez raison, c'est un épicier aubergiste, donc le fameux qui possède un établissement nommé le Bras d'Or, et dans lequel on va transporter la famille royale. Donc, Sauce va jouer effectivement un rôle important, mais Drouet, pendant la nuit, là encore, rien n'est joué, hein, rien n'est fait. Drouet va s'opposer aux hussards qui veulent sortir manu militari, le couple royal, de l'épicerie.
Dites-moi, il a fini ma boule, Sauce, tandis que Drouet a été porté par les électeurs à la convention ?
tout à fait fascinant le destin des personnes qui sont réunies ce soir-là à Varennes. Il y a effectivement ce Sauce qui va vivre dans l'ombre, voire persécuté. Des émigrés veulent lui faire la peau, il doit fuir. Sa femme meurt dans la fuite et il ne trouvera en fait le refuge qu'en se cachant. Là où Drouet va connaître la lumière. Mais je vous rappelle que, et sur place aussi ce soir-là, Radé, qui deviendra général d'Empire et qui est à ce moment-là chef des gardes nationales de
Varennes. Oui, mais le seul qui est élu député suppléant à la législative, puis député titulaire à la Convention, à Reims, par les électeurs pas très nombreux, pour cette séance du département de la Marne, c'est Drouet qui va prendre place parmi les conventionnels les plus radicaux. Il sera montagnard à 100% et même au-delà. Et à la Convention, on a l'habitude des invasions des sectionnaires, parfois soutenues au moins au début par la Commune de Paris. Nous sommes ici le 30 mai 1793 dans le film de Robert Enrico.
Tu meurs de faim triomphalement. On me fait passer pour un fanatique parce que je demande la mort pour les profiteurs et les ennemis de la Révolution. Mais comment peut-on être modéré quand on cherche la liberté ? Peuple de Paris ! Peuple de Paris ! Il ne nous reste qu'une seule voie, une arme, l'insurrection !
Avez-vous conduit vos troupes ici ?
J'exécute les ordres de la Commune de Paris !
La Convention vous ordonne de vous retirer !
Nous nous retirons comme vous nous aurez remis les 22 traîtres qui sont protégés par cette Convention !
Les traîtres, ce sont les Girondins que le peuple, la foule, diraient certains, exigent de voir déposer de leur mandat par les conventionnels. Le 2 juin, peu de jours après, et de nouveau, 5 septembre 1793, voilà que Drouet donne de la voix de nouveau.
Oui, mais si vous me permettez, Jean Lebrun, je reviendrai juste un peu avant la première fois que Drouet s'adresse aux députés, le 24 juin 1791. Car Drouet est non seulement un homme d'action, oui, non seulement un homme d'action, mais surtout un homme de parole. Pour la première fois, il rentre dans une assemblée. Lui, un homme du peuple qui n'a jamais vu cela, il s'adresse à un député en disant, ce sont ses premiers mots, « Je me nomme Drouet ». C'est un des, c'est rare
oui,
comme prise de parole.
Le 2 juin comme le 5 septembre, il dit « Nous ne sommes députés que si le pouvoir populaire qui entre à plusieurs reprises dans la Convention nous maintient notre mandat ».
Plus que cela, le 2 juin, il s'oppose à un des ténors de la Convention, Langevinné lui-même. Et lui, l'homme du peuple, lui, le messager donc des postes de Sainte-Menou, lui dit « Il faut aujourd'hui faire entrer les pétitionnaires à l'intérieur de l'Assemblée ». C'est-à-dire que Drouet défend la légitimité du peuple à intervenir au sein de l'Assemblée des députés, parce qu'ils ont quelque chose à dire. Et Drouet s'oppose à tous les autres députés, et donc qui voudraient faire passer la foule pour de la canaille.
Alors, vous voyez un peu, quand un tribun du peuple aujourd'hui, par ailleurs parlementaire, revendique le modèle de Drouet, ça pose beaucoup de questions sur la démocratie représentative. 5 septembre, la foule de nouveau, le peuple, la terreur à l'ordre du jour, demande-t-il, demande-t-elle, et Drouet ? Si jamais la liberté de la nation est en péril, il faut massacrer impitoyablement ses ennemis. Nous sommes un an après les massacres de septembre 1792, dont il semble demander la réédition. Soyons brigands pour la défense de la liberté.
Oui, attention, Jean Lebrun, si vous me le permettez, ne confondons pas la parole des conventionnels avec les faits et les gestes de l'histoire. Je pourrais vous dire qu'au soir du 13 juillet 1793, si Charlotte Corday n'a pas été massacrée, si quelqu'un a été ennemi du peuple, je crois, c'est cette dame, et on lui garde tout notre respect. C'est parce que Drouet a fait la police. C'est parce que Drouet, en tant que représentant du peuple, a empêché la foule de massacrer cette femme-là. Donc Drouet connaît la violence de la rhétorique révolutionnaire, mais dans les faits, Drouet sait aussi comment mater une foule et comment défendre, par exemple ce jour-là, cette femme-là. Et puis je vous dirai autre chose, c'est que Drouet n'est pas simplement qu'un homme qui appelle à la violence. Quelques jours plus tard, il appelle à cesser la hausse des prix des premières matières, des produits fondamentaux pour la survie des Parisiens et du peuple français. C'est un des premiers qui impose le maximum du prix du grain, qui s'oppose à l'augmentation des denrées et qui va en fait défendre un État qui va protéger les citoyens.
Mais enfin, on ne va pas insister, mais il reproche, parmi les agioteurs et les spéculateurs, la présence de nombreux étrangers ou d'anglais. Et puis, insister plutôt sur le fait qu'il est envoyé le 9 septembre, peu de jours après, en mission, représentant en mission commissaire de la Convention à l'armée du Nord. Il sort de la ville qui est assiégée par les ennemis avec une escorte de dragons. Il est pris par les hussards autrichiens et il va être enfermé par les 10 autrichiens et dans des conditions difficiles dans une, puis une deuxième forteresse, la forteresse du Spielberg.
Un autre patriote est mon voisin. Nous sommes en 1795. Voilà plus d'un an que je suis enfermé, seul, sans nouvelles, sans livres, sans entendre une autre voix que celle du geôlier. La République se souvient-elle de moi ? Robespierre, Saint-Just, Couthon ne peuvent pas m'avoir oublié. Quand les reverrai-je ? Quand reverrai-je la France ?
Une émission radio consacrée à notre héros du jour, Drouet de Varennes, par Gilbert Cazeneuve en 1962. Et la marche de l'histoire chevauche en compagnie de Pierre Cernat. Il faut quand même que vous reconnaissiez qu'en 1795, Couthon, Robespierre, tous ceux qu'invoquent dans sa prison, Drouet, sont maintenant morts, guillotinés. L'état d'esprit a beaucoup changé à Paris. Les royalistes ont repris du poil de la bête. Et puis, quelque chose qu'on pourrait appeler du beau mot de compassion, je vous provoque, hein, Pierre Cernat, est revenu. Et la compassion, elle s'exerce en particulier à l'endroit de la dernière prisonnière du Temple, Marie-Thérèse, Madame Royale, la sœur de Louis XVII, la fille de Marie-Antoinette, la fille de Louis XVI, qui a vu toute sa famille mourir. Et elle, elle est là, toujours enfermée au Temple.
Oui, tout à fait. Donc, on a en fait une fois de plus la vie de Drouet, qui est l'anti-roi, qui est l'anti-monarque, qui est le héros populaire.
Mais quel est le lien entre la forteresse du Spielberg et la prison du Temple ? La prison du Temple où Marie-Thérèse reçoit des sérénades de la part des royalistes qui ont loué un appartement en face du donjon pour lui faire des concerts tous les soirs.
Oui, bien sûr, mais on a en fait aussi un Drouet qui va se présenter lui aussi comme un Hercule du peuple. Lorsque vous parliez de sa sortie à Maubeuge, le général en chef veut rester dans la citadelle. C'est Drouet qui est un homme d'action, qui dit non, un bon républicain a du courage et va combattre ses ennemis. Il provoque la sortie de Maubeuge en prison au Spielberg. Il refuse cette captivité et il tente de s'évader. Il bricole une sorte de parachute. Il se jette dans le vide. Il se brise le pied. Il en restera boiteux toute sa vie. Et finalement, on a un homme qui incarne le volontarisme du peuple en révolution.
Il fait bien de se rappeler au bon souvenir de ses camarades conventionnels, parce que naît dans l'esprit fertile de quelques-uns d'entre eux l'idée d'échange de Marie-Thérèse, de Madame Royale, qui devient gênante quand même, avec un certain nombre de représentants du peuple. Il n'est pas le seul à avoir été emprisonné et à être détenu par les ennemis. Nous sommes toujours en 1795 et à la Convention.
Parole est au citoyen Maillet.
J'applaudis d'avance au décret que suggère notre collègue Monel. Mais il est un représentant pour lequel je demanderai un renvoi du comité de législation.
Pourquoi cette discrimination ? Ce n'est pas à plier !
Pour justifier cette proposition que l'on pourrait trouver étrange, je dirai franchement mon opinion. Il doit vous en souvenir, citoyens, celui de nos collègues prisonniers de l'ennemi dont je parle en ce moment, a tenu un jour, en pleine assemblée, ce propos extraordinaire et que certes vous fûtes loin d'approuver. Si on nous appelle brigands, eh bien soyons brigands. Je demande si un tel homme peut entrer dans la législature. En outre, il était un ami de Robespierre, de Saint-Just de Couthon. Et s'il n'avait été envoyé aux armées du Nord et fait prisonnier par l'ennemi il y a 2 ans, je pense que nous n'aurions pas à discuter de son éventuelle admission parmi nous.
Alors c'est peut-être l'Hercule, mais quand il est question de l'échanger avec d'autres, il y a tel ou tel député comme celui-ci qui dit il faudrait faire la distinction, c'est quand même l'homme qui a tenu des propos contestables en 1793.
Oui, les mêmes hommes qui faisaient souvent partie le plus souvent du Marais et qui se sont tus et qui ont voté les lois de la Convention, un an plus tard, vous le savez, Jean Lebrun se retrouve comme des réacteurs, des réactionnaires et ne veulent plus entendre parler de République démocratique, mais ils sont en train de construire la fameuse République donc bourgeoise qui sera celle de l'an 3.
Il faut dire que l'échange a lieu.
Oui.
À Bâle, on amène Marie-Thérèse, toute vêtue de noir. Elle va rejoindre la cour d'Autriche. Les représentants sont libérés et retrouvent son siège alors.
Oui, il retrouve son siège. Mais il retrouve aussi son énergie. En retrouvant son siège, il retrouve son énergie. Et c'est lui qui va également dénoncer les nouvelles institutions qui ont oublié quelque peu les lois sociales, la démocratie qui était en train d'être mise en place.
Alors, vous êtes un grand spécialiste, Pierre Cernat, du régime qui s'installe à partir de ce moment-là, qu'on appelle le directoire.
Oui, et d'ailleurs, Drouet va continuer à jouer un rôle important, puisque n'oublions pas quand même qu'il est aussi, par intermittence, et on le verra tout à l'heure, mais il va être député jusqu'en 99. Ça veut dire qu'on a un homme qui est sorti du peuple, qui est devenu un protagoniste de la Révolution, et qui de 1792 à 1799 oui. va être député.
Oui, mais attendez, 1796, il est partisan, non pas du directoire, mais du directoire insurrecteur. Comme le dit Gracchus Babeuf, je reprends le récit canonique, hein, comme toujours dans cette émission, le chef de la conjuration dite des égaux, qui pense que pour qu'un point puisse être mis à la Révolution, il faut que le signe égal s'installe avec la suppression de la propriété privée et puis une insurrection populaire.
Vous ne lisez donc pas Babeuf ?
Babeuf.
Ah ben, est-il possible qu'on soit patriote, car vous l'êtes, là, je le sens, je le vois, et qu'on ignore ce qui se fait, et qu'on ne lise pas Babeuf?
Je n'ai jamais entendu ce nom-là.
Tenez, voilà son journal, le Tribun du Peuple. Lisez.
La Révolution restera incomplète tant qu'elle n'aura pas fait rendre gorge aux riches et supprimer les privilèges de la fortune. La nature a donné à chaque homme un droit égal à la jouissance de tous les biens. Le but de la société est de défendre cette égalité, souvent attaquée par le fort et le méchant homme dans l'état de nature, et d'augmenter par le concours de tous les jouissances communes. Il y a oppression quand l'un s'épuise par le travail et manque de tout, tandis que l'autre nage dans l'abondance sans rien faire. Dans une véritable société, il ne doit y avoir ni riche ni pauvre. Les riches qui ne veulent pas renoncer au superflu en faveur des indigents sont les ennemis du peuple. Nul ne peut, par l'accumulation de tous les moyens, priver l'autre de l'instruction nécessaire pour son bonheur. L'instruction doit être commune. Le but de la Révolution est de détruire l'inégalité et de rétablir le bonheur commun.
Jean Topard dans la Tribune de l'Histoire. Mais enfin, dites-moi, votre député permanent, Pierre Cernat, c'est un député conjurateur ?
Alors, je dirais un député conspirateur. Si l'on reprend les termes de l'époque, conjuration, c'est abattre le gouvernement. Conspiration, c'est mener une politique d'opposition ferme au gouvernement, si l'on se tient à la définition des termes, comme on les utilisait au XVIIIe siècle. C'est mon métier d'historien.
Votre distinction.
C'est mon métier. Et d'ailleurs, Drouet est utilisé comme la caution, en fait, du directoire secret babouviste.
Parce qu'il est un peu flottant. Il y a un côté opportuniste chez Drouet. Un jour, il est pour Babouviste. Un autre jour, en avril 96, il refuserait de prononcer un discours que lui aurait rédigé Babeuf, et puis après, il reviendrait dans les filets de la conjuration.
Non, Jean Lebrun, c'est l'historiographie qui vous fait dire cela. La star en 1796, c'est Drouet. Ce n'est pas Babeuf. C'est Babeuf qui est pour Drouet. Parce que Babeuf a besoin d'un conventionnel, a besoin d'une caution d'un législateur pour en fait, se légitimer à l'intérieur du tribun du peuple. Donc, il y a des alliances. Le magnifique discours que l'on vient d'entendre montre qu'il y a des thèmes communs, mais droué à la lucidité politique, parce que c'est un véritable homme d'action de savoir que la conjuration n'est pas prête et que le directoire n'est pas sur le point d'être renversé à ce moment-là.
En tout cas, le directoire a les moyens d'arrêter Lindet, Vadier, Drouet, Antonel, enfin plusieurs membres du reliquat, du robespierrisme, de la montagne. Et le voilà qui va s'évader aussitôt après avoir été arrêté. C'est la deuxième tentative d'évasion. Celle-là, elle a été un petit peu aidée peut-être par Barras, Fouché, hommes du directoire.
Évidemment, donc les républicains démocrates, ce qu'on appelle l'aile gauche de l'échiquier politique, ont gardé de très forts rapports au sommet de l'État avec Barras et aussi avec Fouché qui pourra intervenir en leur faveur. Donc c'est une évasion arrangée, effectivement, donc Drouet est dérangeant et en fait on le laisse partir. Il part dans un premier temps vers la Suisse, il s'y cache pendant un an, et va ensuite profiter par des circonstances assez rocambolesques une fois de plus, de partir vers l'Inde. Mais il s'arrête aux îles Canaries, manifestement sous le charme de cette île.
Dites-moi, comment fait-il pour ensuite devenir représentant du directoire dans la Marne? C'est toujours la Marne. Et après, 1800, sous-préfet, celui qui maintient l'ordre, qui mate les foules, je reprends vos mots, hein, à Sainte-Menou.
Bah, c'est assez simple. On a l'habitude d'oublier la violence et l'intensité et la densité des événements pendant la décennie révolutionnaire. D'abord, le 18 Fructidor en 5, donc au début du mois de septembre 1797, il y a eu un coup de force républicain. Et donc, c'est à la faveur de ce coup de force, en 1797, que Drouet revient. Et j'attire votre attention sur le fait que, durant l'été 1799, lorsque Fouché le fait nommer commissaire exécutif du directoire dans la Marne, Drouet est d'ailleurs très engagé. Donc on n'a pas affaire à quelqu'un de seulement opportuniste, c'est quelqu'un qui est un fidèle républicain démocrate. Et ce n'est pas parce qu'il est sous-préfet de Napoléon, ou c'est justement parce qu'il restera sous-préfet de Napoléon et refusera d'intercéder, de faire intercéder ou de demander à être préfet, que c'est un marqueur pour nous politiques, un marqueur politique pour nous historiens, de comprendre qu'il est resté un républicain silencieux, mais un républicain sous l'Empire.
Il faut lui reconnaître qu'en 1814, toujours perpétuel sous-préfet, il participe à la campagne de France à la défense de Napoléon. François de Boisy était principal du collège de Sainte-Menou, a obtenu en 93 que le collège s'appelle Drouet, mais il n'avait pas obtenu que la sous-préfecture soit supprimée en 89, juste d'ailleurs avant une visite pour le bicentenaire du président de la République.
À Sainte-Ménéoul, la colère gronde pour des raisons budgétaires. Un sous-préfet pour 15 000 habitants n'est plus utile. Une mesure prise 15 jours avant la venue de François Mitterrand.
Nous aurions aimé qu'il puisse être accueilli par le sous-préfet en charge de cet arrondissement. N'oublions pas que c'est Jean-Baptiste Drouet qui a été le premier sous-préfet de Sainte-Ménéoul et que pour commémorer le bicentenaire, deux siècles après, il n'y aura pas de sous-préfet pour accueillir notre président de la République.
Si Jean-Baptiste Drouet arrêta Louis XVI, le conseil municipal est prêt, quant à lui, à certaines actions sur la cérémonie de Valmy. Quant au maire, il sera reçu demain à l'hôtel Matignon. Si la concertation échoue, il ne répond pas des agissements de sa population.
Il y a effectivement des possibilités d'intervention que je ne suis pas sûr de maîtriser.
Et ils sont drôles, les Français descendants de Drouet. D'un côté, ils veulent entrer dans les ministères avec un chariot élévateur, et de l'autre côté, maintenir les sous-préfectures en province.
Oui, à la condition qu'on croit que dans l'état policier dans lequel on vit, on peut rentrer comme ça dans un ministère. Bon, laissons là.
Vous n'avez pas l'impression qu'on rejoue la révolution? Un peuple et son roi de Scheller, il est sorti deux mois trop tôt, quoi. On fait la révolution cinéma.
Je ne suis pas Madame Soleil, je suis là pour parler du vrai Drouet, j'allais dire. Et j'allais insister sur deux aspects quand même qui sont très importants. En 1814, il prend la tête des francs tireurs partisans pour défendre le défilé de l'Argonne. C'est un patriote de 92 qui, une fois de plus, se manifeste. Et le deuxième point, c'est qu'il est une dernière fois député. C'est la preuve que le législateur...
Sous les 100 jours.
Sous les 100 jours, c'est un moment... portant.
Merci à vous, Pierre Sarna. Et puis, pour qui aime les anciens conventionnels au destin singulier, je rappelle votre livre sur Antonelle aux éditions Actes Sud. Patrick Henry, Audrey Ripouille, l'équipe de la Marche de l'Histoire.